territoire possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Le combat qu'on mène pas, c'est un combat qu'on est sûr de perdre. Quand on ne mène plus de combat, on perd. Quand on en mène encore, on ne perd pas toujours. Et même, parfois, on gagne. Quand la population est mobilisée, même en position affaiblie, elle évite le pire. Quand elle n'est plus mobilisée, elle n'évite plus le pire. Et voilà la clé de la différence entre la conjoncture de la fin des années 40, je dirais jusqu'aux années 1970, et la situation épouvantable aujourd'hui.
Quand on lutte, on n'est pas sûr de gagner, mais quand on ne lutte pas, on est sûr de perdre. Ce serait une lapalissade si nos contemporains avaient encore une capacité d'analyse détruite par un lavage de cerveau dont le non-enseignement de notre histoire est l'un des rouages. L'histoire écrite avec des archives, c'est le métier d'Annie Lacroix-Riss, professeur émérite à l'Université Paris 7. L'historienne va aujourd'hui évoquer une histoire qui n'est surtout pas enseignée, celle des grandes conquêtes sociales d'après-guerre, souvent appelés acquis sociaux, qui sont tout sauf acquis, puisqu'ils sont détruits par tous les gouvernements qui défilent depuis des décennies. Services publics, sécurité sociale, retraite par répartition, que les Français doivent aux seuls communistes qui ont imposé ces réformes contre tous les autres partis, y compris contre la SFIO, l'ancêtre du PS. Une mythologie officielle nous raconte qu'au-delà des clivages politiques, tous les partis, main dans la main autour du général de Gaulle, auraient tous résisté contre les nazis, puis, ensemble, créé la Sécu en 45. C'est faux. L'essentiel de la résistance active, c'était les communistes. Et la Sécu, les communistes l'ont créée et finalisée en 46, au forceps, seul contre tous.
Le consensus anticommuniste, le consensus général, contre la sécurité sociale a été monstrueux. Dès le départ, l'opposition à la sécurité sociale, ça a été épouvantable. Il ne faut pas du tout s'imaginer que ça a été un consensus, pas du tout.
En 1945, ce qu'on appelle sécurité sociale n'est qu'une coquille presque vide, un vœu pieux sur du papier. C'est le ministre communiste Ambroise Croizat qui va, malgré toutes les autres formations politiques qui sont contre, habilement œuvrer à nous léguer une sécu dont les gouvernants d'aujourd'hui achèvent la destruction dans l'indifférence quasi générale, même quand la planète est frappée d'épidémies. Bonjour Annie Lacroix-Riss.
Bonjour à tous.
Avant de nous replonger dans cette nébuleuse ambiance d'après-guerre, un peu de ces extraordinaires musiques qui accompagnent l'invasion américaine, l'une des armes du soft power états-unien. L'époque est à la reconstruction par-dessus les ruines, mélangeur de ciment, cement mixer.
First, you get some gravel, pour it in the valve. You mix a mess of mortar, you add some added water. See the Mallaroony come out, slurp, slurp, slurp.
Cement mixer, potty, potty. Cement mixer, potty, potty. Cement mixer, potty, potty.
Who wants a bucket of cement?
Thank you. pas de la libération. Il n'était pas de tâche plus urgente, plus importante que le châtiment des traîtres et des collaborateurs.
Que les têtes des traîtres tombent parce que c'est la justice. Que les biens des collaborateurs, des puissants seigneurs des banques et des trusts qui ont trahi soient confisqués, soient saisis parce que c'est la justice. Pour que la France soit libérée, il faut qu'il n'y ait plus, sur le sol de la patrie, ni un Boche, ni un prêtre.
First, you get some gravel, pour it in the vault. To mix a mess of mortar, you add cement and water. See the Mellaroonie come out, slurp, slurp, slurp.
Cement mixer, putty putty. Cement mixer, putty putty. Cement mixer, putty putty.
Who wants a bucket of cement?
Cement mixer, putty putty. Rocky Coluccio et l'orchestre Alvino Ray en 1946. Retour en 45. De Gaulle s'est servi de la résistance communiste pour exister politiquement. À la bourgeoisie française et aux Américains, le général garantit que la France ne sera pas épurée de ses traîtres et collabos. On continue avec l'essentiel des cadres de Vichy. Les USA finissent par tardivement reconnaître le gouvernement de De Gaulle, gouvernement où les communistes n'ont quasiment aucun pouvoir. Le général partage les ministères à responsabilité entre le MRP, Mouvement Républicain Populaire, machine à ramasser les pétainistes, MRP de la vraie droite auxquels sont alliés les faux socialistes de la SFIO qui, comme d'habitude, sont les plus aptes à combattre le Parti communiste. Leur stratégie ? Casser la CGT qui, jusqu'en décembre 1947, est encore censée être unifié. La CGT réunit encore les communistes unitaires, majoritaires, et le trouble courant en force ouvrière des confédérés du non moins trouble Léon Jouot, qui bientôt, avec l'argent de la CIA, fondera le prétendu syndicat Force ouvrière. Mais en 1945, cette nouvelle scission n'a pas encore eu lieu, mais on la prépare pour casser les rouges, certes électoralement puissants, mais qui sont comme d'habitude, seul contre tous. Annie Lacroix-Riss.
De Gaulle, évidemment, de 1944 à son départ en janvier 1946, il sert pas mal la SFIO, à laquelle d'ailleurs, de manière absolument systématique, jusqu'au début inclus des années 1950, sera attribué le ministère de l'Intérieur. Parce que la SFIO est considérée comme particulièrement efficace contre les communistes, et elle l'est, c'est un des éléments de la force de FO dans la police. Ça fait partie des ministères importants qui sont dévolus à la SFIO. Il y en a d'autres d'ailleurs. La production industrielle, De Gaulle, il accorde les postes clés au MRP, ou en tout cas à la droite classique. Bon. Le MRP, il n'a jamais été officiellement partisan de la sécurité sociale. Les socialistes ont reçu à peu près tous les postes qui leur permettaient de s'opposer frontalement aux communistes. Ils ont des ministères comme ceux des travaux publics, qui ont toujours été des ministères de choc contre la classe ouvrière, avant-guerre déjà, confiés notamment à Anatole de Monzy, un des fidèles de la Banque Worms depuis la Première Guerre mondiale, et qu'on affecte au polytechnicien Jules Moc, qui a toujours été d'un anticommunisme à tout craint, et qui, comme tous ses camarades, notamment Eugène Thomas, ministre des Postes, qui organise la casse de la CGT. Les ministres socialistes, ils ont été utilisés essentiellement pour faire pièce aux communistes. À l'époque, la SFIO, ça n'est pas la SFIO des élites bobos d'aujourd'hui. C'est un parti de masse fondé, exactement comme FO d'ailleurs, sur de la classe ouvrière traditionnelle en général pas trop regroupée parce que les regroupements font les rouges, et sur la fonction publique. Tous les postes de ministère en contact avec les administrations, comme les postes, ce sont des postes essentiels de contrôle de la classe ouvrière ou des salariés, réformistes et qui doivent le rester. Ça explique l'attribution des postes de la SFIO. De Gaulle déteste la SFIO, d'ailleurs De Gaulle déteste tous les partis, mais De Gaulle déteste la SFIO, il en reconnaît tout à fait l'utilité. Il a raison d'ailleurs, parce que la SFIO l'a soutenue après la guerre, comme la SFIO, on le sait, l'a soutenue bec et ongles au moment de son retour putschiste.
Quand en 58, De Gaulle reviendra au pouvoir sur les épaules des parachutistes.
Tous les ministères essentiels ont été affectés par De Gaulle à la droite classique, rebaptisée éventuellement MRP. Elle a eu tout, elle a eu les finances, elle a eu le ministère de la Justice, elle a eu le ministère en contact avec la presse, etc. Les communistes n'ont même pas au-delà d'un strapontin avant les élections d'octobre 1945. Quand en octobre 1945, il faut bien faire quelque chose qui fait semblant de tenir compte de leur rôle dans l'électorat, on met un communiste à l'armée, mais on casse le ministère en morceaux et il ne contrôle rien. Comme on a mis un ministère de l'air qui a les ailes rognées d'ici ou là. C'est-à-dire que les communistes ont des attributions qui ne leur donnent pratiquement aucun pouvoir. Je dirais que c'est le miracle de 1946, dans une situation extrêmement difficile, alors que les communistes n'ont jamais eu le cordon de la bourse, qui est quand même l'essentiel, et qui en 1946 est remis au socialiste André Philippe, qui a conquis ses titres de noblesse américaine. Mais le miracle, c'est que Croizat travaille, même s'il ne peut pas faire grand-chose, il peut quand même faire des choses. Il arrive en 1946 avec un projet voté de sécurité sociale, une création de caisses paritaires pour lesquelles, avec la situation de la CGT, la classe ouvrière jouera un rôle essentiel. C'est une structure qui n'a rien à voir avec ce qui est tiré des assurances sociales d'avant-guerre, qui n'était réservé qu'à quelques professions qui ne concernaient pas la classe ouvrière. La classe ouvrière n'est pas soignée avant la sécurité sociale. On a des taux en France de mortalité infantile, mortalité de femmes en couche, enfin des taux de mortalité qui sont énormes.
En 1945, la sécurité sociale n'est encore qu'une vague promesse, rien de concret.
C'est une sécurité sociale qui arrive à petit bruit et puis surtout qui est susceptible de reconstituer les caisses patronales d'avant-guerre. Parce qu'il y a une amorce de ce qui n'est pas la sécurité sociale, mais qui est toute une série de services sociaux contrôlés par le patronat et qui d'ailleurs font la force du MRP. Les caisses de diverses corporations, elles sont tenues par des hommes du patronat, elles sont rentables ou elles peuvent être rentables et par conséquent, il n'est pas question de créer une institution publique globale regroupant toutes les populations et étant alimenté, parce que c'est le cas de la sécurité sociale de Croizat, par des cotisations d'une part patronale et par des cotisations ouvrières. Ça n'est pas du tout ce qui existe dans le projet de la sécurité sociale. Il n'y a pas d'institution prête en 1945. Tout se fait en 1946. La CGT avait été impliquée dans toute la création des caisses, ce qui a demandé d'ailleurs aux militants des efforts énormes. Le désintéressement des militants, l'efficacité des militants atteint un degré dont on n'a plus idée. Tâche considérable qui a non pas fait dominer la sécurité sociale par la CGT ou le Parti communiste. La sécurité sociale est restée un moyen, avec les remboursements, d'irriguer le secteur privé de plus en plus massivement, puisque les groupes pharmaceutiques n'ont fait que se développer. Mais les caisses de 1946, ça n'a rien à voir avec une réforme dans les limbes qui n'aboutissait pas et qui, si les élections d'octobre 1945 n'avaient pas donné ces résultats, aurait très vraisemblablement abouti à la reconstitution des caisses d'assurance sociale anciennes. Sachant que cette sécurité sociale regroupe tout ce qu'on peut appeler le salaire indirect. Je ne dirais pas que ça n'existait pas, bien entendu, mais le salaire indirect, c'était une bonté du patronat. Il suffit de regarder où on en était. On n'avait rien fait. La question se pose aussi peu que de savoir si a été nationalisé EDF-GDF ou ont été nationalisées les mines. Il n'y avait pas eu de nationalisation. Il y avait eu une confiscation de Renault avec la nationalisation des banques. On a l'ensemble des conseils d'administration privés qui sont versés dans les fausses nationalisations. Dans les banques, on a des nationalisations infiniment plus favorables au capital privé, qui sont entièrement gérées sous l'influence du ministère des Finances, qui dispose à peu près de toute latitude parce que le personnel ne s'oppose pas. Ce sont des fiefs du syndicalisme FO ou du syndicalisme CFTC. Ce qui permet de comprendre d'ailleurs que le chef des banques sous l'occupation, un des pires collaborationnistes, Henri Ardan, a obtenu de son personnel de la Société Générale un énorme soutien formel. Non, il était très bien, non, il nous empêchait d'aller au STO, etc. Donc il faut bien comprendre comment, même dans une France où le capitalisme conserve la quasi-totalité de ses droits, un rapport de force favorable à la classe ouvrière et aux salariés a pu infléchir le cours des choses. Eh bien, dans la sécurité sociale, compte tenu du rôle de la CGT et de la structuration par des caisses qui géraient département par département l'ensemble de cette énorme structure, il y a eu des apports progressifs, progressistes, très supérieurs à ceux même de certaines nationalisations comme celle des banques.
Chers camarades,
Maurice Thorez,
j'ai la joie immense et la grande fierté,
secrétaire général du Parti communiste français,
de remettre
1945
au camarade Prouveau, un mineur de Bruay-en-Artois, la carte du millionième adhérent du Parti communiste français.
Prestige de la résistance et victoire militaire de l'URSS oblige, les communistes jouissent d'une énorme popularité. Plus de 25% des votants qui, aux élections d'octobre 45, donnent un peu plus de moyens gouvernementaux aux communistes jusque-là ignorés par De Gaulle. En 46, la CGT compte environ 5,5 millions de syndiqués. Elle est censée être réunifiée. Les communistes unitaires de Frachon y sont ultra-majoritaires, mais les confédérés de Jouot et leur courant force ouvrière, très minoritaire, ils fomentent une nouvelle trahison et scission avec bientôt la fondation du syndicat Force Ouvrière, financé par les dollars de la CIA, généreusement distribué par l'espion Irving Brown.
Jusqu'en 1945, la CGT continue à se développer. Les poussées d'effectifs syndicaux, elles sont spectaculaires. Dans le cadre de ma thèse, j'ai travaillé sur les fonds préfectoraux. Et ce que soulignent très largement les préfets, c'est que malgré la tentative des confédérés de battre en brèche cette supériorité écrasante des unitaires qui s'est dégagée depuis la libération, eh bien les confédérés n'y arrivent pas. On continue à enregistrer en 1945 des augmentations d'adhérents avec ces adhérents nombreux, les mêmes caractéristiques qu'en 36-37, c'est-à-dire un véritable raz-de-marée des unitaires qui se traduit au Congrès confédéral d'avril 1946 par un rapport de force écrasant en faveur des unitaires, 84% de la totalité des fédérations. On a les grandes fédérations prolétaires qui sont à majorité écrasante d'unitaires. Et puis, il y a les petites fédérations, les petits métiers, les anciens métiers, les fonctionnaires, le secteur non productif ou les petites industries dans lesquelles les confédérés conservent des positions, parfois même des positions majoritaires. Les circonstances difficiles de l'après-libération font que les confédérés conserve certains syndicats. Et ça, c'était extrêmement important pour la scission, Parce qu'un objectif essentiel d'Irving Brown, en relation avec les confédérés, c'était de contrôler les transports. Il reste des syndicats confédérés, alors ça semble ridicule, mais le syndicat des wagons-lits ou des petits syndicats, mais qui donnait évidemment, en cas d'organisation de grève, des atouts considérables, parce que dans une grève générale, si des syndicats opposés à la grève contrôlaient des secteurs entiers des transports, alors la grève était condamnée. Donc, Irving Brown, il est installé à Paris depuis novembre 1945. L'ambassade américaine à Paris et ses petites tournées provinciales, c'est comme ça d'ailleurs, qui recrute tout ce qui va faire le noyau de direction de Force ouvrière, en particulier les jeunes gens anticommunistes et aux dents très longues. Voilà, vous n'avez pas de moyens, je vais vous fournir les moyens, je vais vous payer une secrétaire, je vais vous payer des autos, etc. C'est comme ça, par exemple, qu'il conquiert à Belfort le jeune responsable local de la Fédération du Livre, très collaborationniste pendant la guerre. C'était aussi le syndicat de la presse, les éléments légaux qui étaient en contact avec Jean Luchaire, principal collaborateur du contrôle allemand de la presse sous l'occupation. Le Livre est un secteur très largement acquis aux confédérés. Quand les confédérés décident des grèves au début 1947 dans la presse, les éléments combatifs, ils n'ont plus de moyens de communication. Donc on est dans une année 1946 particulièrement paradoxale. Les communistes se trouvent dans une situation ministérielle où ils sont en mesure, pendant quelques mois, de faire voter par un parlement dans lequel ils ont été élus avec plus de 26% des voix. Entre octobre 1945 et fin 1946, les communistes arrivent au maximum qu'ils ont atteint, hein, plus du quart de l'électorat. Les socialistes sont un petit peu gênés. Il leur est difficile d'être opposés à toutes les transformations progressistes. Ils sont en accord avec le MRP, qui s'oppose à toute réforme, qui, au fil des mois et des années, tient de moins en moins le discours progressiste, voilà, on est catholique, mais nous aussi, on veut des transformations, etc. En 1946, ça n'est plus le cas. Ils remportent les élections de juin 1946, le MRP, sur une base très droitière, où les communistes se font traiter. Les communistes sont des assassins, ils sont aussi dangereux que les nazis. On a quelquefois l'impression que ce genre d'insultes, c'est récent. Mais pas du tout, ça revient très vite après la libération. 1946, c'est une année paradoxale, disais-je, parce que bon, De Gaulle s'en va. Les milieux qu'il soutient ne peuvent pas imposer les réformes ultra-réactionnaires qu'il confie à De Gaulle, il ne le peut pas, et De Gaulle se sent en position extérieure tellement en minorité qu'il préfère ne pas assumer la dépendance américaine exclusive dans laquelle la France est en train d'entrer.
De Gaulle s'en va. De Gaulle quitte la présidence du gouvernement. Voici deux semaines, il s'était donné à Antibes devant la mer les premiers jours de vacances qu'il ait pris depuis 1939. Et puis, il avait repris derrière les murs de son ministère la lourde tâche que lui avait confiée la France. Et voici tout d'un coup que l'homme du 18 juin s'écartait. Qui recueillerait l'héritage? Maurice Thorez, secrétaire général du Parti communiste, Vincent Auriol, chef des parlementaires socialistes, Félix Gouin, président de la Constituante.
'46 est une année décisive dans l'insertion de la France comme puissance de la zone occidentale américaine, avec en particulier l'échec du référendum à contenu très progressiste de mai 1946, suivi des élections de juin qui donnent la majorité relative au MRP, une inflexion dont les communistes d'ailleurs saisissent toute la portée, c'est même à cette occasion qu'ils commencent à renouer avec le discours revendicatif classique qu'ils ont abandonné à la libération lorsqu'ils ont adopté la bataille de la production comme élément essentiel.
« mon usine depuis tôt. On peut dire que j'ai le fin boulot. Et ça fait bien 361 jours de long que je vise toujours le même sacré petit boulon. Mais cela ne m'empêche pas de chanter. Dès que j'ai ma petite aire de liberté, je vais tout droit à Luna Park. Dans le jour fleuri tel en plus à Park. Sur la chenille, je vois les filles, je vois les filles, leurs dessous en soie, en filou, en filou. Et le pick-up chante comme moi.
Donc il y a des ministres communistes. Marcel Paul à la production industrielle, qu'on retire au socialiste Robert Lacoste, qui a rendu beaucoup de services au très grand patronat. Quelqu'un qui a été recruté par la Synarchie, notre fameuse Synarchie qui n'existe pas, mais qui est quand même très active. Il a été recruté dans les années 30, c'est-à-dire dans cette période, je le rappelle, où la Synarchie est sortie des bureaux de la banque Worms et de la banque du groupe de Nerveau pour aller recruter largement dans la gauche anticommuniste. Dans ce recrutement, il y a eu deux courants. Il y a eu le courant qui a fini à Vichy pro-hitlérien toute la guerre, hein, même si on l'a un peu badigeonné après la guerre, c'est-à-dire le courant de Belin, et lui, qui était secrétaire de la Fédération des fonctionnaires. Il n'est pas allé vers la voie nazie, c'est-à-dire qu'il a été un peu comme Jouot, pro-anglais et plus encore pro-américain très vite. Donc Robert Lacoste, qui avait servi les intérêts de la grande bourgeoisie toute la deuxième moitié des années 1930, et donc le grand patronat a fait de Robert Lacoste le ministre de la production industrielle depuis la libération. Pour assurer la non-épuration patronale, il a été tout à fait remarquable, hein, et utile. À chaque fois qu'il était question de soumettre un patron à l'épuration, Robert Lacoste disait « Ah mais non, 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 il n'en est pas question, impossible de produire si ces gens si compétents ne sont pas là. » Donc les communistes ont passé leur temps à se bagarrer contre Lacoste. Donc Lacoste, avec l'élimination des communistes, il reviendra jusqu'en 1951, date à laquelle la ligne américaine de Non-Communist Left Policy, d'appui sur la gauche anticommuniste, n'est plus nécessaire parce qu'à partir du début des années 1950, la droite a de moins en moins besoin de la SFIO. Donc on arrive au début des années 50 à une configuration tellement droitière qu'on n'a même plus besoin de la cinquième roue du carrosse de la SFIO. Mais tout ce temps-là, Robert Lacoste a été un véritable pantin dans les mains du patronat. Il est évincé. On met Marcel Paul, secrétaire général de la Fédération de l'énergie, ancien déporté, qui est ministre de la production industrielle. Croisat collé au travail, ils ne peuvent pas faire autrement, évidemment, il y a quand même les élections. Ça l'afficherait mal, le Parti communiste, de l'évincer tout de suite. Hein. Il n'y a pas seulement le rôle du Parti communiste, il y a le rôle de la CGT Unie. Pendant toute la période préparatoire à la scission, ces messieurs français et américains ne vont cesser de dire « Nous ne pouvons pas encore évincer les communistes parce qu'ils tiennent la CGT. » On serinait que la scission de novembre-décembre 1947 avait été une scission de lassitude, que la SFIO avait été poussée par la politisation insupportable imprimée à la CGT par le PCF, a démissionné. La scission, elle a été organisée avec la réunification, comme la première fois. Mais la CGT est encore très puissante, parce que depuis 1947, nous vivons dans un paysage de casse syndicale, alors que la CGT, pendant plusieurs décennies, très affaiblie, a résisté quand même, c'est-à-dire a maintenu cette tactique combative qui avait caractérisé la pratique unitaire. Aujourd'hui, on a une CGT, Confédération européenne des syndicats aidants, qui s'est ralliée aux autres et dont la direction ne se distingue plus vraiment. Mais ce n'est pas du tout le paysage de 1945-1947.
Les communistes sont évincés du gouvernement début mai 1947.
L'éviction des communistes, c'est à l'occasion d'un affaiblissement particulier de la CGT que les ministres, soutenus par les Américains, sont en mesure, le 4 mai 1947, de se débarrasser enfin des communistes. Quand sont recrutés, si j'ose dire, les ministres communistes, avec quand même un petit peu plus de pouvoir apparent que jusque-là, mais j'ai consulté, je l'ai dit, les assises de la SFIO, et quel est l'argument défendu par les plus droitiers de la SFIO, je dirais ceux qui ont le passé d'occupation le plus lourd? Ils disent, c'est très bien, on va les obliger à se confronter aux revendications des ouvriers, on va les affaiblir comme ça. Et c'est ça qui rate pendant plusieurs mois. Parce que, comme la SFIO, elle, a des postes de responsabilité réels, et je pense en particulier à André Philippe, ministre des Finances. Le seul ministère qui compte, c'est le ministre des Finances. Toute l'administration est tenue par les inspecteurs des Finances. Depuis qu'il existe une Banque de France, c'est comme ça. Donc, dans la certitude du MRP et de la SFIO, qu'on va user les communistes. Les communistes, à l'intérieur de la CGT, ils viennent avec le soutien des ministres communistes pour défendre telle revendication et ils se heurtent partout aux ministres socialistes. Et notamment André Philippe, champion de l'austérité salariale, prétexté, comme avant-guerre d'ailleurs, par la nécessité d'être très raisonnable. L'argument, c'est qu'on est obligé, pour emprunter aux Américains, d'avoir une politique salariale absolument austéritaire, de bloquer les salaires. Les salaires sont bloqués. Hein. Mais il se trouve que le ministre du Travail, Croizat, il a des attributions possibles. Début 1946, il prend toute une série de circulaires, d'arrêtés, qu'on ne peut pas bloquer tout de suite. Ils sont fous en particulier d'une certaine circulaire TR-109. Les patrons sont fous de rage. Et les socialistes et le MRP à la Chambre, pareil. TR-109, c'est une circulaire qui permet de contourner le blocage des salaires parce qu'elle autorise les salaires au rendement. C'est aussi un facteur de fragilité de la CGT. Parce que les fédérations les plus combatives, avec leurs gros effectifs, la métallurgie, l'aéronautique, ils sont en mesure d'imposer des salaires au rendement. Mais les salaires au rendement, il n'y en a pas dans la fonction publique. Les confédérés sont alignés sur leurs camarades socialistes qui leur disent « pas d'augmentation des salaires, c'est bloqué les salaires ». Pour leurs ressortissants, pas de salaire au rendement. Ça donne des mois de sursis aux unitaires, mais à terme, ça met en danger la cohésion, la cohérence de la CGT, parce que tous les non-productifs, toutes les fédérations confédérées ne bénéficient pas de ces fameux salaires au rendement. Il y a toute une série d'arrêtés, de décrets. Par exemple, en février 1946, un décret qui aligne les salaires des femmes sur les salaires des hommes, qui décrète l'égalité des salaires des hommes et des femmes. Ça aussi, c'est une mesure prise sur le papier par le ministre du Travail. Il y a la capacité du ministre du Travail de mettre en œuvre une réforme de la sécurité sociale qui est souvent présentée comme le fruit des travaux antérieurs, d'une part de Pierre Larocque et d'autre part de l'ancien ministre du Travail, tout à fait acquis au blocage des salaires, c'est-à-dire Alexandre Parodi. Mais en fait, la sécurité sociale que concocte Croizat, c'est la sécurité sociale que les unitaires sont en mesure de déployer en 45-46. Tout ça va se voir infliger déjà un gros recul avec les élections d'avril 1947 à la sécurité sociale, attestant un affaiblissement de la CGT, c'est-à-dire que est prévu une structure de la sécurité sociale qui est d'abord entre les mains des syndicats, avec des élections qui sont organisées régulièrement, ces fameuses élections dont De Gaulle viendra à bout avec les décrets de 1967, considérés comme ayant tant contribué finalement à déclencher 1968, hein, car il n'était pas seulement question des caprices de Cohn-Bendit à Nanterre, Et donc, le projet, c'est que la sécurité sociale assurera tout ce qui n'est pas le salaire direct de l'ensemble de la population, la santé, de la naissance à la mort, la retraite par répartition, tout ce qu'on a pris l'habitude d'appeler le salaire indirect, mais qui est le salaire, l'ensemble de ces cotisations partagées par le salaire et à l'époque davantage par le patronat, qui vont permettre à la France populaire de se soigner dans des conditions inouïes. On mourrait en couche en France. On mourrait vieillard sans moyens.
Le 1er juillet 1946,
Ambroise Croizat,
commenceront à fonctionner les nouvelles caisses de sécurité sociale et les nouvelles caisses d'allocation familiale.
Janvier 1946.
C'est au 1er janvier 1947 que les caisses de sécurité sociale assumeront la charge de l'assurance contre les accidents du travail. Aussi, dès le début de 1946, les assurés sociaux verront leur situation considérablement améliorée. Le nouveau régime d'assurance maladie les couvrira à peu près intégralement contre toutes les charges résultant des dépenses médicales et pharmaceutiques. Et les assurés âgés vont bénéficier de retraites suffisantes pour assurer la sécurité de leurs vieux jours.
C'est cette sécurité sociale très vite remise en cause parce qu'elle atteint des intérêts matériels gigantesques. Qui contrôlait les assurances sociales? L'ensemble de la bourgeoisie catholique. Et le MRP, évidemment, avait un intérêt direct à ce que la chose ne se fît pas. Donc, la résistance au verrouillage des salaires, bien sûr la sécurité sociale, il y a l'apport de Croizat, il y a l'apport de Marcel Paul. Les communistes sont encore capables, jusqu'au printemps 1946, d'imposer le statut du mineur, ce qui a changé la vie dans les mines. Mais nos mineurs, c'est la clé de la reconstruction de la France. Ce sont plusieurs centaines de milliers de travailleurs qui vont se trouver pendant un certain temps hors de la précarité. Un salaire convenable, des salaires au rendement, qui sera remise en cause dès 1947 et surtout dès 1948 avec les grèves organisées au prix de provocations franco-américaines en 1948. Là, il y a déjà de sérieux reculs confortés par la décision de liquider les mines parce que le grand capital fait le calcul que, outre que les mineurs français sont un peu agités, mais surtout en termes, je dirais, de rentabilité économique, qui ont déjà un projet d'importation massive de ce charbon américain, deux fois plus cher que le charbon allemand, deux fois plus cher. Le statut du mineur, le statut de l'EDF-GDF, statut rendu possible par la nationalisation d'une part des mines, avec la création d'un système conformément au programme du CNR de nationalisation de l'ensemble des ressources énergétiques, c'est-à-dire la nationalisation de l'électricité, avec création de l'électricité de France, assortie de la nationalisation du gaz, GDF. Marcel Paul avait, je peux vous dire que le secteur pétrolier s'en est activement occupé, avait l'ambition de faire déborder le gaz sur le secteur pétrolier, mais inutile de dire qu'il n'a jamais été question de nationaliser le secteur pétrolier. Mais tout ça fait des transformations, certes limitées, mais majeures, en ce qui concerne le statut soit du cheminot, soit le statut de l'EDF-GDF. Ça n'a concerné évidemment qu'une partie du peuple français, mais une partie non négligeable. Les salariés qui ont le mieux résisté pendant des décennies à l'offensive, la contre-offensive patronale, eh bien, ce sont ces secteurs. La dernière réalisation possible, Thorez est ministre d'État, est porteur d'un projet statut de la fonction publique, un statut en or, qui a d'ailleurs généré des très graves conflits à l'intérieur de la tendance force ouvrière. Le statut était tellement bon. Et donc, on a en 1946 une série de transformations qui expliquent que, après la petite défection de juin 1946, les communistes retrouvent le rôle de premier parti de France et atteignent le sommet de leur puissance électorale absolue. J'ai parlé du salaire indirect, système d'allocation familiale, système de retraite par répartition, et au début, comme le syndicat doit être déterminant dans la gestion dans laquelle la classe ouvrière elle-même joue un rôle déterminant, tout dépend de la force relative des syndicats et des courants syndicaux. La catastrophe vient avec les élections d'avril 1947 à la Sécurité sociale, qui voit une coalition clandestine entre la SFIO et le MRP, c'est-à-dire entre la CFTC et le courant force ouvrière, évidemment, officiellement, FO ne peut pas appeler à voter pour la CFTC. La CGT, je le rappelle, est officiellement unifiée. Et qu'est-ce qui se passe? FO rabat toutes ses voix sur la CFTC. La CGT, aux élections d'avril 1947 à la Sécu, ne recueille que 60% des voix. Dans une période où le mouvement ouvrier s'affaiblit, où le salaire réel s'effondre et où par conséquent il y a un très gros découragement et l'amorce de la désyndicalisation, quelque chose qui obère considérablement le fonctionnement de la sécurité sociale rêvée par les unitaires. À partir de ces élections, on va avoir une coalition des syndicats réformistes avec le patronat qui isole la CGT des unitaires et qui permettra bien sûr en 1967 à De Gaulle son coup de force contre les structures démocratiques de la sécurité sociale.
Léon Jouot fonde le prétendu syndicat Force ouvrière en décembre 1947. Jusque-là, FO n'était que le titre du journal des confédérés.
Financé sans doute par des fonds patronaux, financé alors à liasses de dollars par Irving Brown, et qui a divers moyens de casser la CGT. D'abord, de soutenir des grèves, à une époque où les grèves sont combattues comme opposées à la bataille de la production. Alors, les choses s'infléchissent, hein, avec les résultats extrêmement décevants du référendum sur la Constitution de mai 1946, qui amène d'ailleurs les communistes au comité central qui suit ce référendum à amorcer le changement qui se déploiera en 1947. Avec le non au référendum à une constitution extrêmement démocratique. La constitution qui aurait été adoptée en mai 1946 aurait été la constitution la plus démocratique que la France eût jamais connue depuis une constitution qui n'a jamais été mise en œuvre, c'est-à-dire la constitution de 1793. Mais elle n'est pas adoptée. Et à ce moment-là, les communistes commencent à s'orienter, pas officiellement vers les grèves, ils ne sont pas grévistes encore les communistes, mais ils demandent une augmentation des salaires de 25%. C'est une première cassure. Jusqu'en mai-juin 1946, la tactique de FO, appuyée sur Irving Brown, c'est une tactique gauchiste, avec l'argument « espèce de traître, votre bataille de la production s'oppose aux revendications de la classe ouvrière ». À partir du moment où les communistes commencent à dire « Ah non, 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 là, on va recommencer à revendiquer », la tactique gauchiste recule. Dans la deuxième moitié de 1946, les confédérés s'opposent à toute augmentation de salaire, d'autant plus activement que tous les ministres socialistes, travaux publics, ils sont au PTT, ils sont au cœur des échanges dont Irving Brown a tant besoin pour casser la CGT. Partout, ils organisent la scission et en particulier, ils lancent des grèves. Ces premières grèves qui vont casser les syndicats. 46, 47 d'ailleurs, une des cassures les plus spectaculaires, avec la grève de la RATP en octobre 1947, qui précède les grandes grèves. Donc, la scission se prépare. Les confédérés renoncent à la tactique gauchiste et la situation de la classe ouvrière devient de plus en plus difficile. Parce que finalement, les unitaires ont obtenu à l'été 1946 une augmentation des salaires. Mais cette augmentation des salaires nominales de 20%, elle ne résiste pas à l'espèce de marée des augmentations de prix du deuxième semestre 1946, le tout sous la houlette du ministre de l'économie, de Menton, qui, après s'être opposé à l'épuration, se trouve désormais à un poste économique. Et donc, le pouvoir d'achat, dans la deuxième moitié de 1946, s'effondre. C'est cet effondrement du pouvoir d'achat qui affaiblit considérablement les unitaires, facteur de faiblesse syndicale, de désyndicalisation, et alors les stocks finaux est porté au moment où finalement les communistes arrivent à ce qui semble le sommet de leur conquête, hein, ce fameux statut de la fonction publique, qu'aucun parti n'ose combattre officiellement à la Chambre, hein, à la veille des élections de novembre 1946. Mais on se trouve là dans une conjoncture qui bascule, novembre-décembre 1946, le ministre des Finances retire au ministre du Travail toute capacité d'agir sur les salaires, par arrêté, par circulaire, par décret. Décembre 1946, Croizat est complètement impotent. Il ne sert plus à rien. À la faveur d'une manœuvre politico-parlementaire qui prépare directement l'éviction des communistes, en novembre 1946, il y a une majorité relative communiste. Ça ne fait rien. La SFIO combat pratiquement comme le MRP l'équité parlementaire qui permettrait de hisser Thorez à la présidence du Conseil. On se met gentiment d'accord entre MRP et SFIO sur un ministère socialiste homogène qui dure de la mi-décembre à la mi-janvier. À la mi-janvier, il n'y a plus de Croizat. Il y a des changements de ministres, il y a des départs, et même pour ceux qui restent, ils sont tellement ligotés qu'il ne va plus rien se passer que leur affaiblissement progressif jusqu'en mai 1947. Les partis non communistes passaient leur vie à l'ambassade américaine. Les discussions quotidiennes entre les Américains et les Français, je dis bien quotidiennes, à l'ambassade des États-Unis. C'est bien simple, ils y étaient de 0 à 24 heures, la SFIO et le MRP. Ils discutaient avec Caffrey, l'ambassadeur, tous les jours. Qu'est-ce qu'on va faire to kick out the communists, c'est-à-dire pour fiche les communistes, coup de pied, hein, les faire partir. Oui, mais c'est très difficile tant que la CGT n'est pas cassée. Ce qui nous arrive en France, c'est ce qui arrive ailleurs. Les communistes belges sont chassés en mars 1947. Les communistes français vont être chassés le 4 mai. Les communistes italiens chassés courant mai. Donc il faut bien voir qu'il s'agit d'une entreprise tout à fait concertée. Et qu'est-ce qui permet en France de le faire ? Ces deux événements. D'une part, la grève de Renault, début 1947. Elle est manifestement financée par le patronat et par les Américains en faisant appel aux gauchistes. Une grève lancée contre les communistes au départ, parce que les communistes ne veulent pas faire grève. Ils sont encore au gouvernement. Entre la direction, c'est-à-dire le faucheux, très important cadre industriel qui a d'ailleurs accompagné la période franco-allemande, entre le faucheux, le patronat, les Américains, la grève, que les unitaires prennent au vol, hein, qui finissent par soutenir, a marqué une poussée gauchiste et un affaiblissement communiste. Et il y a le deuxième élément qui fait basculer définitivement, ce sont les élections à la Sécurité sociale. Entre la grève de Renault et les élections à la Sécurité sociale, les Américains et leurs amis français peuvent faire ce que les Américains et leurs amis belges ont déjà fait à Bruxelles, ce qui prend pour prétexte l'opposition des communistes au début de la guerre d'Indochine.
Cette guerre qui deviendra la guerre du Vietnam, la France la déclenche le 11 novembre 1946 et la perd en 1954.
Le Parti communiste, entre la fin de 1946 et le début de 1947, où il est privé de toutes ses attributions gouvernementales, de fait. Il ne peut rien faire contre une politique coloniale contre laquelle, d'ailleurs, il n'a jamais rien pu faire. Hein. Il n'a aucune influence sur les décisions gouvernementales en matière coloniale. Or, le Parti communiste, attaché à l'indépendance de l'Indochine, dont le leader est le communiste d'origine présent au congrès de Tours, Hô Chi Minh, celui qui n'a jamais varié depuis 1920 et que le Parti communiste a toujours soutenu. Le mouvement de libération nationale au Vietnam, c'est un mouvement à direction communiste. Et par conséquent, après des acrobaties hallucinantes, c'est-à-dire le groupe communiste votant contre les crédits militaires, mais les ministres s'abstenant, eh bien le 4 mai, après des tractations qui ont laissé leur écho extraordinaire dans une lettre de Thet Gien, ministre qui prend l'intérim de Bidault quand Bidault s'en va en mars-avril 1947 à la conférence de Moscou, première conférence officielle de la rupture Est-Ouest. Thet Gien annonce à Bidault, dans cette lettre du 14 mars 1947, que nous pourrons faire valoir une formule gouvernementale qui conviendra mieux. Cette fameuse lettre m'a valu presque mon éviction quasi définitive des services publics de la radio. C'est en 85, l'émission 2000 ans d'histoire, Patrice Gélinet m'invite sur l'éviction des ministres communistes. Et il fait venir, moi je montrais que l'éviction des ministres communistes n'avait été possible en France comme ailleurs que grâce au soutien des Américains. Tous mes interlocuteurs disent « Mais non, pas du tout, on a décidé ça, jamais les Américains n'ont été impliqués, et tout ça, et tout ça. » J'étais venu avec la lettre de Thet Gien, du 14 mars 1947. Et Thet Gien, 88 ans, mais tout frais, une mémoire indestructible, et Thet Gien ayant juré ses grands dieux que pas du tout, on n'avait jamais discuté de ça avec les Américains, je lis sa lettre à Bidault. Et Thet Gien, devant sa lettre, se trouve quoi ? La vérité a été dévoilée un tout petit moment, et puis la thèse habituelle est revenue. Les Français pensent que les ministres communistes ont été chassés par le bon vouloir des ministres MRP et des ministres socialistes en toute indépendance par rapport à une puissance étrangère accordant son indépendance à la France.
Oh, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit au cours de cette série, mais les archives sont impitoyables.
Ah, celle-là était particulièrement impitoyable puisque mon pauvre Thet Gien a tout de même un petit peu vacillé et a manqué de répartie. Gélinet ne m'a plus jamais invité, ni sur France Culture, ni sur France Inter, où il a animé cette émission, qui a eu en effet pour successeur Jean Lebrun, qui ne m'a jamais invité non plus.
Question pour conclure. Alors que des spécialistes d'aujourd'hui nous expliquent à longueur de médias que, bien qu'étant l'une des six nations les plus riches du monde, la France serait devenue un pays du tiers-monde qui ne peut plus payer ni ses fonctionnaires, ni les retraites, ni la sécu, ni rien. Comment se fait-il qu'en 1946, on réussisse à financer des mesures sociales alors que la France d'après-guerre est à moitié détruite et complètement ruinée? Au-delà des chiffres, faire du social ne relève-t-il que de volonté politique? D'autant plus qu'en 1946, tous les partis sont contre la sécu, sauf les communistes, évidemment.
Le consensus anticommuniste, le consensus général contre la sécurité sociale a été monstrueux, dès le départ. L'opposition, mais horrible. Alors, la SFIO se dissimulait en partie derrière le MRP, qui lui hurlait que les rouges allaient spolier les classes moyennes. L'opposition à la sécurité sociale, ça a été épouvantable. Il ne faut pas du tout s'imaginer que ça a été un consensus, pas du tout. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est qu'il y a une classe ouvrière, une partie des salariés qui se battent, qui sont encore mobilisables et mobilisés. Et c'est la différence avec la conjoncture actuelle. Ce n'est pas du tout dans l'opposition exprimée L'opposition exprimée a été effroyable. Il faut lire la presse, 45-47 sur la sécu. C'est l'apocalypse. Seulement, les gens se battaient. Seulement, la CGT, avec des structures démocratiques, elle avait mis ses syndicats au service de la population. C'est-à-dire, c'est la CGT qui a tenu à bout de bras les caisses au départ. Donc, il a fallu le rapport des forces de plus en plus mauvais pour faire disparaître cet élan. Un des aspects les plus forts de la mobilisation populaire qui a permis, même avec la cassure de la CGT, voilà, de maintenir en France une certaine combativité, un certain taux de grève, même avec une CGT affaiblie, d'avoir une centrale scissionniste comme FO à partir officiellement de janvier 1948. Je le dis là sur la base d'archives américaines, il était courant de considérer FO. Les Américains disaient « hired hands ». Bah, malgré tous les efforts qu'on fait, eh ben, FO passe pour un lot de « hired hands », des mains à tout faire, qu'on embauche, des larbins. Bon. Il y avait une mobilisation très forte pour la sécurité sociale qui a changé le sort des masses. Sans cette mobilisation populaire, rien n'est possible. Et je donnerai un autre exemple de cette mobilisation populaire, même dans un secteur particulièrement frappé par la scission et par la corruption patronale et américaine. Dans les années 1950, FO, qui constitue des syndicats des ports, c'est pas des syndicats, c'est des nervis payés par les Américains. Quand l'argent américain a manqué, ils se sont effondrés tout de suite. Il n'y avait rien. Or, pendant des années, les dockers ont résisté. Et ils étaient dans une position d'extrême faiblesse pourtant. Mais parce que la profession se mobilisait. La différence ne réside pas seulement dans la mobilisation du camp d'en face. Ils n'ont jamais rien laissé faire du tout. La seule différence, ce n'est pas l'attitude de la bourgeoisie ou de ses soutiens extérieurs ou intérieurs. La seule différence, c'est la mobilisation de la population. Quand la population est mobilisée, même en position affaiblie, elle évite le pire. Quand elle n'est plus mobilisée, elle n'évite plus le pire. Et voilà la clé de la différence entre la conjoncture de la fin des années 40, je dirais jusqu'aux années 1960, et même encore un peu 70, et la situation épouvantable dans laquelle se trouve la population aujourd'hui, sachant en plus qu'on est parvenu à un stade très avancé de la crise systémique du capitalisme. Le combat qu'on ne mène pas, c'est un combat qu'on est sûr de perdre. Quand on ne mène plus de combat, on perd. Quand on en mène encore, on ne perd pas toujours. Et même parfois, on gagne.
Merci à Annie Lacroix-Risse pour cet exposé que tu peux réécouter sur notre site, polémix-et-la-voix-off.com. Avant qu'on ne se retrouve bientôt sur cette même antenne pour la suite de notre terrible saga populaire, ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut !